Siri.
Et maintenant,
On va où? Siri.
Et maintenant, on
va
où? Merci d'être à l'écoute de Radio Grenouille pour l'émission spéciale Siri. Et maintenant, on va où ? À l'occasion de l'événement Visage de Siri, la vie qui résiste, qui s'est déroulé ce week-end entre les murs du MUCEM à Marseille. Bonjour Lauriane.
Bonjour Mélanie. On oublie trop souvent qu'un pays en guerre, ce n'est pas seulement un avenir incertain, mais aussi un passé qui se détruit. Tandis que le ciment qui liait factice la société sous la main de fer d'Assad se dissout, le berceau de l'humanité disparaît dans la poussière et le sang.
Éloignons-nous donc un peu des velléités quotidiennes qui brouillent le message réel de cette impulsion louable ayant malheureusement pris un caractère violent, la liberté.
Les presque confortables repères occidentaux sur le djihad, le gouvernement, les rebelles obscurcissent la plus éclatante des volontés, celle d'avoir le contrôle sur sa vie, son passé et son futur, son identité.
Alors si pour cela il faut réécrire un Hamlet syrien, ainsi soit-il, la vérité reste et demeure, tandis que les âmes et les fondations disparaissent.
La Syrie et ses 20 millions d'habitants, presque la moitié d'entre eux ont émigré, dont 2,5 millions hors du territoire, Jordanie, Liban, Europe, France, Marseille, et maintenant ils vont où ? Où ira donc l'héritage syrien, celui de la révolution comme celui des origines de l'humanité ?
Tant de questions complexes et fondamentales, actuelles et intemporelles auxquelles nous tenterons de donner quelques pistes, non pas de réponses, mais des éclairages. Au sommaire chargé de cette émission, nous parlerons culture, sans sortir nos revolvers, musique avec Baba Salam et Fawaz Bakker, architecte et compositeur syrien, patrimoine avec les archéologues Sophie Cluzan et Cheikh Moussali, cinéma avec le critique Tahar Chikaoui et de nouvelles formes de cinéma avec Caroline Donati. Puis, nous entrerons dans le vif du sujet en passant par la politique, la vraie, celle des citoyens, en compagnie de Christophe Ayad, journaliste au Monde, Emma Boltanski, anthropologue. Pour réagir et nous accompagner tout au long de l'émission, Iyad et Georges sont avec nous dans le studio. Bonjour Georges,
bonjour
Iyad.
Bonjour.
Nous vous avions invité il y a un an déjà. Vous êtes tous les deux Syriens en France depuis quelques années, sans pour autant cesser de lutter pour la Syrie, chacun de façon différente, mais toujours dans l'optique de faire cesser le massacre, d'aider à la survie de vos amis et familles notamment, rester au pays, mais aussi faire vivre et faire comprendre ce qu'est la société syrienne, révolutionnaire et pacifiste.
Alors merci beaucoup encore à nouveau d'être à nos côtés à tous deux. Malgré la brutalité et la violence de la situation dans votre pays, des notes de musique résistent encore à l'image de Baba Salam, un groupe qui ne cesse de faire le pont entre Orient soufi et Occident. Lionel, notre reporter sans frontières, a assisté vendredi à leur concert et nous rapporte quelques morceaux choisis de Khaled Al-Jaramani, qui est oudiste et chanteur du groupe, et Raphaël Vuillard, clarinettiste, premier prix du Conservatoire de Lyon.
Au départ, Baba Salam, c'est un trio acoustique. On s'est connu avec Khaled et Mohamed en 2005 en Syrie. Et avec ce trio, on a énormément joué dans tout le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient. Et c'était une évidence pour nous, ce trio. Khaled et Mohamed viennent de la musique classique orientale. Moi, je suis au départ un musicien classique occidental, on va dire. Avec tout ce qui se passe d'horreur en ce moment en Syrie, Khaled et Mohamed ont connu l'exil, ce triste mot que l'on appelle exil, qui est un nomadisme mais forcé. Et ici, du coup, de se retrouver en France, ça nous a amené à nous poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on tire de ces musiques, avec quoi ils sont venus en France. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage? C'est la musique. Et du coup, c'était cette fusion qui est devenue presque une évidence sur ce mélange d'une tradition, mais une tradition réarrangée sur un mode plus occidental. Le fait de rajouter effectivement une quatrième personne plus des machines, oui, ça a demandé un petit peu de travail.
Un petit peu de temps. Justement, le titre Alep, il sonne beaucoup plus rock et on sent une certaine urgence, beaucoup de tourmente dans ce morceau. Ce changement musical est-il en lien avec l'enfer que connaît Alep maintenant ?
Exactement, c'est ça. Parce que ça ressemble aussi à notre vie. Parce que quand on a enregistré le premier album à Alep, Alep, elle était calme. Aujourd'hui, avec qu'est-ce que se passe en Alep ? Avec notre situation comme réfugié en France, tout est changé en fait. Parce que maintenant, on a la nostalgie à l'intérieur de notre maison, de notre histoire, de tout ça. Et à la même temps, on habite dans une situation où il y a de l'électricité, il y a de cette énergie, la vie moderne en fait, quelque part on peut dire comme ça il y a on a arrivé à faire cet mariage entre la musique qui donne notre corps qui ça c'est la musique de nostalgie avec la vie moderne qu'on vit maintenant à ce moment en France comme ça. يا غزالي كيف عرفت أبعد شتى توشك
La culture, dit-on, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Nous avons choisi donc de débuter cette émission spéciale en donnant la parole à certains intervenants et spécialistes du sujet au MUCEM, qui est au MUCEM ce week-end.
Georges, tu étais justement tout le week-end au MUCEM à travailler comme traducteur, mais aussi à lire des textes. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels étaient ces textes choisis ?
Alors les textes étaient des textes soit des journalistes qui ont été publiés dans des journaux soit arabes ou en France, ou des textes d'écrivains syriens. Et tous les textes étaient en rapport avec ce qui se passe en Syrie. C'était tous des textes écrits après mars 2011.
Qu'est-ce que tu as pensé, Georges et Iyad, qui étaient aussi en spectateur, de la sélection artistique de visages de Syrie au MUCEM ce week-end ?
Bah, en général, c'était pas mal, en fait. Ça représente pas mal de la culture syrienne en général. Il y avait pas mal des artistes, des musiciens, des gens qui font la photographie, la musique, l'écriture politique. Il y avait tout en fait. Donc ça représente en général. Mais ça reste un peu. Ça, c'est ton point de vue personnel. Ça reste un peu dans le côté intellectuel élite de la Syrie. Donc ça représente pas trop les peuples normaux, les gens normaux dans la rue.
Genre, je suis d'accord avec ce point de vue d'Iyad sur la culture élitiste.
La culture, elle est élitiste partout. Elle n'est pas élitiste en Syrie. Donc, après, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être aussi la culture des gens normaux. dans tous les cas, il y avait, donc on a invité des écrivains, des, par exemple Yassine El-Hay Saleh, s'il est peut-être élitiste dans sa pensée, élitiste dans le sens il écrit en profondeur, mais il était jusqu'à très récemment en Syrie, vivant en clandestinité, avec ou tout près de ce qu'on appelle les gens normaux entre guillemets, ou le peuple. Donc
c'est malgré tout une représentation de
oui,
ce peuple.
Oui, oui, donc à ce niveau-là, je peux, l'architecte, les architectes ou les photographes aussi, ils étaient sur le terrain, sous le bombardement. Donc pour le moment, dans le cas actuel de la Syrie, on ne peut pas faire plus représentatif que ça.
Alors justement, un architecte et un autre musicien étaient également présents au MUCEM ce week-end. Pas pour jouer, mais pour parler. C'est Fawaz Baker. On écoute.
Nous sommes avec Fawaz Baker. Bonjour.
Bonjour.
On vous a entendu tout à l'heure que vous vous définissiez en tant que pratiquant non-croyant, tant par rapport à la musique que à l'architecture. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ?
Disons que moi, je crois que l'architecture, quand elle était construite par les gens eux-mêmes pour habiter dedans, à un moment donné, comme toutes les architectures anciennes, était mieux que l'architecture des architectes d'aujourd'hui. Comme pour la musique. La musique qui se faisait dans les villages pour les mariages me plaît beaucoup plus que le commerce des CD et de la grande production d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me définis toujours en tant que pratiquant non-croyant, c'est-à-dire que je suis obligé d'y croire un peu quand même, mais c'est d'abord la pratique, c'est elle qui fait évoluer les choses, et dans toute forme d'art d'ailleurs. Et dans la pratique, l'échange est possible. Dans la théorie, dans les croyances figé, l'échange est beaucoup plus difficile. Je crois beaucoup à la spiritualité, je ne crois pas trop dans les religions.
On a beaucoup parlé là, dans la conférence du patrimoine immatériel, oui. Et on aurait dit que vous étiez plutôt un militant du savoir vivant, on va dire. Comment vous le faites vivre, justement, le savoir que vous avez?
Je l'ai dans mon cœur. Je n'arrête pas de chanter, je n'arrête pas de répéter, je n'arrête pas de le transmettre aux autres. Mais je le transmets aux autres, pas en écrivant des livres. Je le transmets aux autres de cœur à cœur, comme on disait avant. C'est-à-dire, il faut qu'on soit en contact physiquement direct. Et heureusement aussi, ça c'est l'avantage aussi des... je ne suis pas du tout contre la modernité, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont primordiaux en fait pour garder un pays qui s'appelle la Syrie. Vous voyez, l'art de la Syrie artistique, elle vit dans les réseaux sociaux aujourd'hui.
Justement, à ce propos, vous avez évoqué la profusion artistique qu'il y avait en Syrie avant le début des soulèvements. Est-ce que vous pensez que ce n'est justement pas cette profusion artistique qui a inévitablement mené vers une révolution plus politique ?
Je ne le pense pas.
Non ?
Je ne le pense pas, parce que cette question-là, elle existe partout dans le monde. Par contre, je pense que la guerre, c'est un état qui est un peu excessif, en fait, de ce conflit. Parce que justement, on a empêché toutes les solutions de ce conflit, les petites solutions. Il y a eu une accumulation qui a explosé, finalement. Et d'ailleurs, ça, et il n'y a pas que la Syrie. Hein. Je pense que le monde entier, il est en face de ça. Hein. Aujourd'hui, il y a l'ordre qui est en train de se croire maître du monde. Et c'est très grave. Parce que si les gens n'arrivent pas à trouver leurs petites solutions et se sentir un peu participants à leur avenir... je pense que les choses ne vont pas aller dans le bon sens.
Fawaz Baker au micro de Lauriane ce week-end pour Visage de Syrie au MUCEM. Il nous dit qu'il y a une accumulation de petites solutions qui n'ont pas été exploitées en Syrie. Et c'est d'ailleurs avec de petites choses qu'on arrive aux grandes avec le temps. Ça, Georges, c'est une citation de Beckett, toi qui fais du théâtre, tu dois déjà la connaître. Et pour ces petites choses, justement, tous les vendredis, sachez que depuis le début de la guerre, des musiciens du conservatoire d'Alep jouent ensemble et se retrouvent au même endroit et font une sorte de bœuf improvisé. Et depuis le début du conflit, envers et contre tout, seules deux sessions musicales ont été annulées. Preuve et symbole que la vie résiste et la culture aussi sur de petites choses.
Yad, tout à l'heure, tu parlais du côté intellectuel et élitiste. La Fawaz Baker n'était pas d'accord que la profusion artistique avait mené vers justement une révolution politique avec une prise de conscience citoyenne. C'est ton point de vue aussi ?
Quand je parle de ça, en général, pour moi, l'art, c'est un état d'expression des gens. Quand on a besoin d'exprimer quelque chose, on utilise l'art, quelle que soit la musique ou quelque chose d'autre. Et les gens, depuis dans les diasporas arabes, en général pas que en Syrie, depuis le début du printemps arabe, et ils ont utilisé pas mal. Il y avait une croissance incroyable des mouvements intellectuels et culturels. Et on ne voit pas tous les gens représentés dans des événements comme ça, car par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent en mode anonyme. Donc ça, on ne se voit pas. Il y a des gens qui sont vraiment engagés, qui sont déjà, ils ne sont pas entrés au terrain pour faire, j'ai tout le respect pour les gens qui rentrent au terrain pour faire le travail, oui, tout à fait. Mais aussi, il y a des gens qui travaillent non-stop, tout le temps, 24/7, pour exprimer quelque chose.
Alors, exprimer quelque chose, justement, tout comme l'utilisation des réseaux sociaux, on a entendu l'écrivaine Samaria Peck, samedi, dire que la révolution n'aurait pas pu s'organiser et perdurer sans Facebook, hein, à travers le réseau syrien, à travers le monde. Pourtant, elle a arrêté d'utiliser ces réseaux sociaux en étant gênée par les dérives que l'on connaît tous, à savoir le côté un peu pervers de ces réseaux sociaux. Comment trouver l'équilibre aujourd'hui pour vous deux dans l'utilisation de Facebook, de Twitter à travers ce conflit?
Bon, je donne trois exemples avant que Georges va parler. C'est Samaria Sbeck qui a dit aussi que il n'était pas content avec l'aspect intellectuel élite de la série maintenant. Il a dit ça dans le film. Deuxièmement, on voit s'il y a l'impact de réseaux sociaux partout, comment on exploite tout ça. Il y avait un festival comme le Festival de Cannes pour le documentaire de série. C'était sur les réseaux sociaux, car les gens, ils n'ont pas le droit ou ils n'ont pas la capacité d'aller quelque part et organiser un festival. Donc, on voit ça tout le temps, en fait.
Donc, on s'organise à travers Facebook. Et par rapport à ces dérives des réseaux sociaux, Georges, comment trouver un équilibre dans l'utilisation?
Je pense que les réseaux sociaux sont à la fois nécessaires comme tout outil technologique, et il y a des dérives, et ça, donc il n'y a pas d'échappatoire. Donc c'est à chacun de faire son rapport à cet outil. Donc et après, moi je peux pas.
Quel est ton rapport, toi, par exemple, à l'utilisation?
J'allais dire qu'il y a une grande différence du rapport, je pense, de la personne aux réseaux sociaux lorsqu'il est à l'intérieur de la série que lorsqu'il est à l'extérieur de la série. C'est-à-dire le piège où il y a beaucoup de monde qui sont tombés dedans, surtout à l'extérieur de la série, c'était un endroit, un plateau où tout le monde se présentait, de dire voilà, moi je fais tel, je dis ceci le matin, je dis cela le soir. Je pense que le rapport des gens à l'intérieur, il était beaucoup plus primaire, ça veut dire dans le sens utile, ça veut dire c'était le moyen pour qu'on communique des choses, et ça reste jusqu'à maintenant essentiellement pour ces gens que Yad appelle anonymes, ça reste pour eux un outil très très important.
Efficace.
Justement, ces anonymes qui sont l'auteur de petites initiatives, qui sont des héros du quotidien, ils peuvent également sauver le patrimoine matériel syrien par le partage d'informations sur Internet, en alertant par exemple sur la destruction de la mosquée des Omeyyades et du plus grand souk du monde, celui d'Alep, qui faisait jusqu'à 10 km de long.
Et justement, c'est l'archéologue syrien Sheikh Mousse Ali qui nous en parlait vendredi. Il y avait également une archéologue française, Sophie Cluzan, présente lors de Visage de Syrie au Mucem, pour évoquer l'importance du patrimoine immatériel syrien. Car c'est en Syrie que s'est inventé le verre, le tissage et bien d'autres outils essentiels pour toute l'humanité.
Nous sommes donc avec Sophie Cluzan. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans votre travail d'archéologue, et plus même en tant qu'engagement humain personnel, on sent que la Syrie a une place particulière.
Oui, tout à fait. J'ai un engagement personnel qui est un engagement à la fois professionnel et personnel. Pour des raisons, je dirais, assez simples, c'est que mon engagement a été d'abord professionnel en tant qu'archéologue, qu'historienne aussi, et puis à travailler en Syrie, à parcourir la Syrie, à travailler avec les Syriens. Bien, mon engagement est devenu forcément personnel, puisque c'est un pays qui attache forcément les gens qui le parcourent souvent.
Et vous avez dirigé plusieurs missions en Syrie, donc, et vous êtes chargé de coopération pour le musée du Louvre avec la Syrie. Alors déjà, je me demande dans quel état est cette coopération-là et comment se passaient, avant le début des conflits, les relations avec le gouvernement syrien pour effectuer les fouilles.
Oui, alors, pour ce qui concerne la coopération des équipes françaises avec la Syrie, avec la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie, cette coopération s'est toujours particulièrement bien déroulée. La Syrie, les autorités syriennes et cette administration des musées et des antiquités ont toujours souhaité et vivement encouragé les équipes françaises à venir travailler sur place. Donc ça, je dirais, c'est une coopération, une collaboration qui s'est toujours établie dès le mandat français, bien sûr, mais ensuite avec l'indépendance du pays, c'est une collaboration qui s'est toujours poursuivie et qui a été toujours, je dirais, souhaitée des deux côtés, par les deux parties profondément. Donc les choses se sont passées toujours de manière très naturelle et la France est le pays qui avait le plus de missions archéologiques en Syrie jusqu'avant les événements que vous savez de 2011.
Comment l'archéologie pourra-t-elle permettre ce travail de mémoire qui va être inévitable et voire de reconnaissance de la nécessité de la conservation du patrimoine, mais de reconnaissance de la société civile en tant que telle, qu'elle s'auto-reconnaisse et voire de réconciliation? Est-ce que l'archéologie peut permettre ça?
L'archéologie en tant que telle, en tant que science de terrain, non, pas forcément. Mais si on entend par archéologie la science en général de l'histoire et de ses restes, ce qu'elle est en réalité, alors oui, bien sûr, elle pourra contribuer à une forme de réconciliation qui sera nécessaire. Elle pourra contribuer à aider les Syriens à retrouver leurs fondements. Parce que il y a en Syrie quelque chose de très particulier dont nous avons parlé tout à l'heure lors des échanges, c'est que le patrimoine historique, matériel et historique, est prolongé dans le présent par un patrimoine immatériel, c'est-à-dire des habitudes sociales, des habitudes religieuses aussi, qui correspondent parfaitement à l'histoire ancienne, donc qui sont la continuité de cette histoire ancienne, et dans laquelle donc les Syriens se retrouveront forcément quand on reparcourt les villes et que l'on voit la mosquée, l'église côte à côte, les communautés qui vivent ensemble et ce patrimoine matériel qui en témoigne. Alors oui, l'archéologie en ce sens, le patrimoine, pourra les aider à retrouver cette manière de vivre ensemble. Mais personnellement, je ne suis pas très inquiète sur ce point car ils savent vivre ensemble.
Sophie Cluzan, archéologue au micro de la grenouille, qui dit « Je ne suis pas inquiète, les Syriens savent vivre ensemble ». Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, Yad et Georges, sur la question. Yad ?
En général...
Il se passe la parole tous les deux par politesse, donc Yad, je t'en prie, commence.
La diversité de la Syrie, il est vraiment un sujet vraiment très intéressant. Il y a pas mal des ethnies, des confessions religieuses qui cohabitent ensemble. Et il y a bien évidemment des problèmes à cause de ça. Mais il y a aussi un signe de diversité et cohabitation ensemble en général. Et ça donne, pour le quartier en général, pour le patrimoine du quartier, ça a rajouté beaucoup de choses pendant l'histoire. L'histoire moderne, les très anciennes histoires en général. Donc, on voit ça tout le temps et maintenant, c'est vraiment très difficile et très triste de voir la destruction qui arrive à ce point-là.
Détruire des monuments, comme on a pu le voir aussi, c'est un acte fort symbolique de détruire des monuments qui sont aussi des lieux de vie en Syrie, donc des lieux d'habitude, de coutume, donc de vivre ensemble. Georges,
Je pense que le régime, il essaie de détruire tout ce qui ne lui ressemble pas. Et donc... Par essence, il essaie de supprimer les hommes et les endroits qui rassemblent ces hommes qui ne lui ressemblent pas. Qu'ils soient les maisons, les mosquées, les églises, quels que soient les endroits qui sont où le régime n'a pas les codes d'accès. Donc il détruit tout. Donc tout ce qui est différent, tout ce qui ne me ressemble pas, je le détruis. Et je pense que... La phrase qu'il a utilisée l'architecte en disant « ils savent », ça c'est très important aussi pour détruire ce mythe ici en Occident, en France en tout cas, dans les médias. On a l'impression que le régime Assad, c'est lui qui a inventé le vivre ensemble des Syriens. Sauf que nous, on vit ensemble depuis, avec des religions différentes, non pas seulement avec le christianisme et l'islam depuis 1400 ans, mais depuis 3000 ans, il y avait des... Dans, les archéologues, ils savent parler de ça beaucoup mieux de moi. À Palmyre, dans toutes les grandes villes de la Syrie antique, on a trouvé toutes sortes de temples. Mmh. En même temps, ce n'est pas des temples, ça c'est normal, dans tous les pays on trouve des temples superposés.
À la même époque, dire, c'est ça
voilà, à la même époque. À la même époque, il y avait l'église, un temple de Jupiter en face, un temple d'Ashtar de l'autre côté, mmh. en même temps. Donc, ce n'est pas les Assad ou le Baas syrien qui a inventé le vivre ensemble des Syriens. Ça, c'est très important.
Yad, tu veux réagir là-dessus ?
Oui, et en fait, les catastrophes qui arrive à la destruction de patrimoine maintenant, ça continue en fait. Pendant les jours du régime, on avait en Syrie quelque chose qui s'appelle les villes oubliées. En fait, les villes oubliées en Syrie, ça porte beaucoup d'héritage, beaucoup de patrimoine. Et c'était pas, le régime n'a pas pris soin de ça. Et ça fait un bon moment, il était oublié, il n'y avait pas de protection pour ces monuments comme ça.
Est-ce que l'archéologie, Sophie Cluzan dit ça dans l'interview, aidera à favoriser un devoir de mémoire, oui ou non selon vous? Est-ce que c'est trop tôt de se poser cette question aujourd'hui?
On doit faire... c'est une question auquel les Syriens ils doivent répondre. Parce que les Syriens, nous, moi, comme tous les Syriens, on avait un rapport à l'histoire qui était assez spécial. Ça veut dire que c'était un rapport... très occulté, de manière, ça veut dire, de l'histoire résumée. C'était le régime qui montrait de l'histoire ce qu'ils veulent. Et du coup, l'histoire écrite ou l'histoire matérielle nous l'appartenait pas vraiment. C'est des choses très basiques de notre histoire, on la connaissait pas. Et du coup, il n'y avait pas une relation directe à notre histoire. C'était occulté. C'était bien pour les touristes, mais pour nous, les Syriens... Souvent, le rapport était très ambigu. Donc, ce travail, on a besoin de le faire maintenant pour reconstruire, comme maintenant en Syrie, on reconstruit tout. Ça veut dire le rapport des citoyens envers eux-mêmes, le rapport des citoyens envers du pouvoir, envers de ce que c'est, qu'est-ce que c'est un régime. Et parmi tous ces rapports qu'on va reconstruire en Syrie, on est obligé de reconstruire notre rapport à notre histoire.
Réappropriation du devoir de mémoire par le peuple. Lauriane, on va passer, si tu le veux bien, peut-être au cinéma.
Oui, alors le cinéma, on a pu voir samedi des courts-métrages marquants et pointus du collectif Abou Nadara, qui est d'ailleurs l'auteur du titre de l'événement, Visage de Syrie. Les extraits choisis ont touché beaucoup de gens dans la salle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Yad?
Ça représente pas mal de tous les événements qu'ils ont passés pendant les derniers 3 ans. Et moi, personnellement, ça m'a touché profondément. J'ai vu un ami à moi qui était tué par le régime. J'ai vu un autre ami qui a été détenu. Et on ne sait pas où il est maintenant. Et il y avait beaucoup des images de ma ville, de Damas et des autres villes que j'ai visitées et tout. Donc c'était un peu difficile pour moi. Et c'est impressionnant, c'était vraiment impressionnant.
Ils ont mis l'accent sur le côté anonyme des reportages et des gens interviewés. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'il faut citer les grands noms comme on a pu le faire au début de la profusion artistique en Syrie?
Je pense qu'ils avaient le même rapport que je disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire dans le sens où beaucoup ils travaillaient dans l'anonymat parce qu'il y a un risque de danger qui touche pas seulement à la personne qui fait un travail quelconque contre le régime, mais à sa famille, à ses proches, à tous ces gens-là. Donc comme le représentant du collectif, il vit en France, donc plus ou moins en sécurité. Mais les gens qui travaillent sur le terrain ne le sont pas. Donc, ils étaient obligés de passer par l'anonymat, même si eux, ils le reconnaissent. Leur collectif, il était fondé avant le début de la Révolution. Mmh. Parce que je pense que dès le départ, ils savaient qu'ils allaient tôt ou tard avoir affaire au sujet brûlant de la Syrie d'avant la Révolution. Et donc, ils ont commencé par l'anonymat, je pense, parce que c'était compliqué de dire « je m'appelle tel et je fais ceci, je dis cela ».
Sans avoir de problème.
Voilà.
On a interviewé aussi un critique de cinéma en parlant cinéma Tahar Chikaoui, cinéma syrien, parce que dimanche, il y avait plusieurs films projetés au Mucem. Ils étaient présentés donc par ce critique qui est tunisien et qui est aussi le directeur de La Flamme, les rencontres internationales du cinéma arabe. Je suis allée
à sa rencontre rencontre. On écoute tout de suite.
On écoute.
Bonjour Tarchikaoui, merci d'être avec nous à Radio Grenouille. On vient de sortir de la projection du premier film de Meyar Al-Roumi, Round Trip. Vous parliez tout d'abord au sujet de ce film, juste là, à la conférence, de la finesse du cinéma syrien face à la brutalité du régime, ou en tout cas des images qu'on a aujourd'hui de ce pays. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là?
Non, connaissant un peu, quoi, puisque c'est mon travail, les cinématographies arabes du Moyen-Orient, du Maghreb, etc., j'ai souvent remarqué, effectivement, chez les cinéastes, on va dire, importants, Omar Amir Alaï, Oussama Mohamed, Mohamed Malas, une très, très grande... un sens très très développé de la finesse, de la subtilité, etc., et qui me paraît effectivement tranché avec une brutalité rare dans le monde arabe, hein, par rapport à d'autres pays. Et donc je me disais que c'était aussi leur manière de faire face, de réagir, quoi. C'est normal, l'art, c'est adoucir les mœurs. La brutalité, c'est aussi le déni de l'autre. La subtilité, le sens de la... C'est aussi une manière d'ouvrir, s'ouvrir sur l'autre. Parce que le spectateur, il est du coup... Il est interpellé, on a envie de comprendre, de savoir, de suivre les personnages. On est presque sommé, j'allais dire, d'être attentif. Voilà.
Alors justement, cette finesse et cet esthétisme du cinéma syrien touche à ses représentations. Qu'est-ce que aujourd'hui, comment pourriez-vous définir le cinéma syrien actuel ?
Oui, alors je dirais pas esthétisme pour celui-là. Esthétisme pour moi a une connotation péjorative, mais je veux dire cet esprit. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent, et pas seulement d'ailleurs en Syrie. On est dans quelque chose d'autre qui est sans doute lié d'abord à une sensibilité nouvelle de la jeune génération qui est très très attentive à ce qui se passe maintenant. Il y a aussi un rapport différent à l'outil cinématographique, parce que l'outil est plus léger, et aussi une culture cinématographique, il faut le dire, plus large, plus importante. Ils sont moins soumis aussi aux pesanteurs sociologiques et politiques de leur pays. Il y a beaucoup plus de liberté, parce que c'est des jeunes du monde, quoi. Ils sont plus dans la situation dans laquelle se trouvaient ces cinéastes-là dans les années 70, que moi j'ai accompagné, que je connais, et qui étaient tout le temps... extrêmement soumis à des pesanteurs sociologiques, etc., et qui n'avaient pas forcément de lien, en tout cas fort ou étroit, avec le cinéma dans le monde. Alors que là, on a bien vu, moi j'ai pensé à beaucoup de films, hein, pas seulement Rossellini, je pensais à Bergman, on était avec Monica, etc. Enfin, alors que lui, il n'a pas vu ça, donc il est c'est une génération qui est déjà dans le monde, quoi. Y compris politiquement, d'ailleurs, ça se rejoint. Pour moi, ça se rejoint. Ces jeunes qui demandent la démocratie, la dignité, veulent vivre comme tout le monde, parce qu'ils sont dans la planète, ils sont comme les autres, parce qu'ils savent comment vivent les jeunes en Europe, en Amérique et ailleurs. Donc, ils sont plus dans le même état d'esprit de leurs parents.
Vous êtes également directeur des rencontres du cinéma international arabe. Oui. Est-ce que ces rencontres-là, surtout aujourd'hui, dans la situation politique du monde arabe, est-ce qu'elles ont un rôle politique en un sens ?
Nécessairement, oui. En tout cas, moi, je les ai conçues comme ça. Pas pour montrer des films qui parlent de la politique, etc., mais des films qui donnent une autre image, qui donnent autre chose, d'autres nouvelles de ces pays, de ces sociétés qui sont en train de bouger. Et il n'y a pas mieux que les cinéastes pour comprendre, même s'ils sont singuliers. Et justement, parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils ne sont pas dans le commun, ils ne sont pas dans le convenu, ils ne sont pas dans le cliché, ils nous disent des choses, quoi. Comme quand on voit un film de Truffaut en France, ou Godard, même si c'est différent, ou Godard, on comprend quelque chose. Ou quand on lit Proust, on saisit quelque chose de l'esprit français. Et je pense que c'est bien ces jeunes, ils sont en train de nous dire quelque chose d'autre, qui est totalement différent d'ailleurs de ce qui est véhiculé dans les médias, quoi.
Tarchikaoui, au micro de Mélanie. On l'évoquait tout à l'heure, un webdoc a retenu notre attention. C'est Syrie, journaux intimes de la Révolution, de Caroline Donati, journaliste indépendante et collaboratrice à Mediapart et co-auteur du webdoc, qui est au téléphone avec nous, justement. Mais on écoute d'abord un petit teaser.
Allah. Gloria, 20/11/2012.
Syrie, journaux intimes de la Révolution. Caroline Donati, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous m'entendez. Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis Paris ?
Oui, je suis avec vous, oui.
Très bien. Donc, je rappelle que pour nos auditeurs, que vous êtes journaliste indépendante, collaboratrice de Mediapart. Et surtout, c'est ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui avec vous, co-auteur du webdoc Syrie, journaux intimes de la Révolution. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un détail pour les auditeurs qui n'ont pas vu ce webdoc sur comment ça s'est construit, cette relation avec ces trois révolutionnaires qui vous envoient des vidéos jour après jour ?
Jour après jour, depuis un an, hein, l'aventure a commencé en novembre 2012. Il nous envoie des vidéos donc depuis novembre 2012. Je parle de ma mère dont on a entendu un peu le chuchotement, hein, dans l'extrait du teaser que vous avez passé à l'antenne. Ma mère est à Damas, Majid est à Alep et il combat donc auprès. Il témoigne en fait des combats de sa brigade dans la région d'Alep, et Oussama, qui est un militant et que je connaissais dans mon travail sur la Syrie. Il a commencé son activité d'opposant à la fin des années 90, et j'avais envie un petit peu de rendre compte de son travail. Et par ce travail-là, en fait, de tout l'engagement de jeunes Syriens qui sont un petit peu à la pointe de cette mobilisation et qui sont oubliés. Donc avec Oussama et puis avec donc la réalisatrice Karine Lefebvre-Quenel, on a réfléchi à comment pouvoir rendre compte de ce combat. Et donc Oussama a décidé, nous a proposé, on a réfléchi ensemble, il nous a proposé de confier les caméras à des jeunes. Donc il connaissait Hammer, puisqu'il est originaire de la même banlieue, d'Araya, à Damas. Et puis Majid fait partie d'un réseau de journalistes citoyens, là, le réseau Sham News. Donc, et tous les deux ont répondu à l'appel.
Alors pourquoi avoir choisi le web documentaire qui fait que le spectateur est aussi acteur de son propre film ? Est-ce que c'est une référence à ce journalisme citoyen où des citoyens prennent, j'allais dire, en otage presque la caméra, l'ordinateur, l'écran pour en faire quelque chose ? Caroline Donati.
Pas tout à fait, non, parce que ce sont peut-être des journalistes citoyens. C'est le cas donc de Hammer et de Majid, mais nous, ce qu'on leur demande et ce qu'ils font dans ce travail-là, ce n'est pas du tout un travail journalistique, il n'y a pas du tout le filtre journalistique, et c'est un travail d'auteur. C'est eux qui réalisent ces images, ils filment quand ils peuvent, à tout moment, la nuit, le jour, mais nous, on les accompagne. On les accompagne à distance, techniquement, on les guide aussi vers ce côté intime, parce que le constat qu'on a fait depuis le début et qui ne cesse d'être pertinent, c'est que il y a une vraie confusion sur ce qui se passe en Syrie, confusion à cause d'une certaine lecture médiatique, à cause en raison de logique médiatique guerrière ou de d'enjeux géostratégiques, et donc pour nous c'était important de rendre la dimension humaine du combat de ces jeunes, qui est un combat pour l'état de droit. Donc la caméra, on leur a confié la caméra, on leur dit la caméra et une amie qui vous accompagne, vous allez pouvoir témoigner devant cette caméra-là. Mais il n'y a pas une confiscation.
Comment le webdoc a-t-il, si vous le savez, a-t-il été reçu par le public, par des Syriens en France ou ailleurs ? Peut-être, est-ce que vous avez des retours sur ce webdocumentaire ?
On a des retours, mais il faut juste peut-être préciser un point qui est important. Donc là, le webdoc est mis en ligne depuis le 22 janvier sur Arte, en accès libre, et sur Mediapart pour les abonnés. On a mis en ligne cette année de vidéos, puisqu'ils nous envoient des vidéos depuis novembre 2012. Et ça va continuer, c'est-à-dire que cette semaine, là, aujourd'hui, ou d'ici aujourd'hui ou demain, on a des nouvelles vidéos, donc on les suit pendant un an. Toute l'idée est vraiment d'être dans la durée, parce que la durée est importante, à la fois parce qu'on s'attache un petit peu à ces trois je ne sais rien, mais aussi au niveau de, on est en train de construire un récit collectif. Donc les premiers retours sont positifs, je dirais, les premiers retours, c'est-à-dire que le pari qu'on a un petit peu lancé de justement cette dimension humaine et intime semble porter. Mais c'est encore un peu tôt quand même, puisque c'est en ligne depuis le 22 janvier et il n'y a pas moins de 55 vidéos déjà à regarder.
Oui, il y a beaucoup de choses à voir. Je rappelle d'ailleurs donc déjà le site sur lequel on peut regarder ce web documentaire, c'est syria.arte.tv, si je ne me trompe pas, Caroline Donati. Et je rappelle également qu'on peut soutenir ce web documentaire pour continuer à ce que ces trois révolutionnaires syriens envoient des vidéos.
On les aide, parce qu'on les équipe, les connexions sont quand même très difficiles, il faut avoir une connexion sécurisée déjà, et donc on les aide, on les équipe et on leur fournit une connexion satellitaire, donc c'est effectivement très coûteux. Mais juste pour revenir aussi sur cette idée de durée, la durée, c'est, ça renvoie aussi au titre, c'est-à-dire c'est un journal intime. C'est un journal intime qui se constitue jour après jour, semaine après semaine, et que nous, on restitue, qu'on propose, quoi.
Merci beaucoup, Caroline Donati, d'avoir été avec nous. Le meilleur soutien qu'on peut faire à ce web documentaire et à la Syrie, c'est d'y aller et d'entrer dans ce monde de témoignages. On est happé par le désir de vivre et de montrer réellement ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Caroline Donati. À bientôt. Elle est partie. Lauriane, on enchaîne.
Oui, tu posais la question tout à l'heure à Caroline Donati sur le soutien financier. Il y a aussi d'autres preuves de soutien qui sont demandées, comme Sophie Cluzan, l'archéologue française qu'on a entendue tout à l'heure, qui a fait une pétition sur Internet pour attribuer le prix Nobel de la paix 2014 au peuple syrien.
Tout à fait. J'ai l'adresse, qui est un peu compliquée, mais bon, on la mettra sur la page de l'émission www.givethenobelpeacepricetothesyrianpeople.net. /fr pour la signer. Il n'y a que 4000 signatures environ, donc il faut y aller. C'est par des petites actions comme ça qu'on soutient aussi le pays.
Justement, il faut faire aussi attention, comme le disait Sophie Cluzan ou l'a pu le dire Caroline Donati, à cette instrumentalisation des forces en présence, savoir exactement, clairement, qui sont ces communautés qu'on dit divisées, qui sont ces gens qui témoignent et qui luttent. Quel message ils ont à faire passer? Sophie Cluzan et Emma Boltanski, une anthropologue présente au MUSEM le week-end dernier, nous ont donné leur point de vue.
Moi, j'ai été frappée, si vous voulez, au moment du début des événements, j'ai été frappée par cette facilité, finalement, qu'avait le pouvoir en place à faire passer sa propagande. À faire passer sa propagande, et où finalement, alors si les gens n'adhéraient pas complètement, du moins ils se posaient la question. Mais finalement, c'est vrai, qui sont ces gens qui bougent dans la rue? Sont-ils armés? Sont-ils des terroristes? Et les médias ont aussi beaucoup participé à ce mouvement de peur, de frayeur, de l'islamisme, du terrorisme, etc. Et donc j'ai vu une réalité que moi je connais bien en Syrie, une réalité travesti, être modifié. Et ça m'a profondément bouleversée. Parce que les Syriens sont des gens pacifistes. Ils sont des pacifistes, ils vivent ensemble. Encore une fois, des communautés, des religions différentes vivent ensemble. Et ça n'est pas parce qu'un État les maintient ensemble. Ils vivent ensemble, naturellement. Et ils sont pacifistes. Quand on parcourt la Syrie, on le voit, on le sait, ils sont pacifistes. Leur démonstration, leur demande était pacifiste. Alors ça m'a bouleversée de voir qu'on transformait cette réalité. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et voilà, un rêve. Et dans le fond, si en essayant de demander quelque chose qui peut paraître un petit peu fou, on ne réussissait pas au moins, non pas à obtenir cette chose, mais à faire passer l'idée.
Régime qui se présente comme un régime laïque, a complètement manipulé le jeu communautaire et a fait, en fait, cristallisé les tensions communautaires pour pouvoir s'installer dans la durée et renforcer son assise, notamment dans la communauté alaouite où les choses n'étaient pas si évidentes que ça. Il y a, dans cette ouvrage dont je vous parle. Donc c'est Pas de printemps pour la Syrie, édité par Burga et Paoli. Il y a un très bel article de Bruno Paoli qui explique bien que, ne serait-ce que dans la communauté alaouite, les choses n'étaient pas si évidentes. La communauté alaouite n'était pas complètement pour le régime. Il y a même eu des actions contre le régime dans la ville dont est originaire le président syrien, Bachar el-Assad, et qui ont été complètement arrêtés dans la violence. Donc voilà. Donc,
Personne comme Samar Yazbek, par exemple, qui est alaouite, mais qui aussi est dans la contestation et aujourd'hui est réfugiée en France.
Qui, elle, refuse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté pendant le débat, j'ai fait bien attention à ne pas mentionner qu'elle est alaouite, parce que ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Elle refuse tout ce qui est identité assignée. Elle parle d'ailleurs dans le film, je ne sais pas si vous l'avez noté, elle dit, voilà, il n'y a rien de plus vide et de plus étroit que l'identité confessionnelle. Quelque chose qui est imposé et qui, voilà, dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Elle se reconnaît comme syrienne, sans doute, comme écrivain, mais pas comme juste alaouite. Je reviens toujours à cet article de Bruno Paoli, parce que je viens de le lire, mais ce qui, moi, m'a frappée, c'est qu'il... Il dit bien que, donc, au début de la Révolution, les choses n'étaient pas gagnées au sein même de la communauté alaouite. La communauté ne faisait pas corps autour de Bachar el-Assad, de manière ce qui est évidente. Mais finalement, au bout de 3 ans de conflit, les choses avancent, évoluent plutôt dans le mauvais sens. Et on va dans le sens d'une confessionnalisation de plus en plus importante. Et les gens ont réellement peur. Et pour les alaouites, il y a effectivement des discours qui circulent extrêmement violents à l'égard de la communauté, de la communauté alaouite, et de plus en plus un sentiment d'être en réel danger, enfin un danger existentiel.
Emma Boltanski, au micro de Mélanie Omusem, le week-end dernier, on a pu voir le témoignage de Samar Yazbek dans le documentaire de Rania Stefan, qui s'étonnait d'avoir rencontré les auteurs à la base de la Révolution, qui étaient plus issus du milieu rural. Et pour Yassine Alash-Saleh, il avait évoqué cette révolution de l'impossible qui aujourd'hui n'appartient plus aux acteurs. Comment on explique ça?
Qu'on ait dépossédé les acteurs de la Révolution syrienne, finalement.
Est-ce qu'ils vont pouvoir, parce que la société civile continue encore de résister dans des réseaux plutôt clandestins avec des médecins, mais comment ils vont faire pour retourner à la lumière du jour sur la scène politique pour montrer les autres arguments qui existent?
En fait, la société civile continue à résister et c'est ça le point que j'aimerais expliquer au début. Mmh. En fait, par exemple, quand on parle de photographie, il y a jusqu'à un moment, il y a des photographes, il y a un réseau qui s'appelle Objectif d'un jeune homme de chaque fois, c'est en ville, de Damas, d'Alep. Et il prend des photos de la vie quotidienne, de les jours. Pour la musique, par exemple, Au camp assiégé du Yarmouk, il y avait quelques jours, il y avait une vidéo virale, il y avait des gens qu'ils ont ramené en piano, ils ont mis juste au milieu de la destruction, ils ont commencé à jouer et chanter, et il est devenu viral en fait. C'est pareil, la culture du court-métrage, BD, tout ça, ça n'existait pas avant. Et ça existe maintenant, ça a commencé à croiser maintenant. Et ça, on se voit par les citoyens journalistes, on le voit par tout le monde, par les gens normaux. C'est pour ça que je dis les gens normaux qui continuent. Ils sont la vie qui résiste, pour moi, en fait.
Georges, sur cette vie qui résiste et qu'on peut encore rendre visible, encore plus, comment?
Ce qui est essentiel, c'est que cette vie, elle existait, elle a existé dès le début de la Révolution. La seule chose qui a changé, c'est le traitement médiatique. C'est-à-dire, le problème dès le départ, c'est le traitement médiatique de l'affaire syrienne. Donc, où on met la caméra? Qu'est-ce qu'on montre? Est-ce que ces djihadistes existent? Oui, ils existent. Est-ce que seulement il y a des djihadistes? Non. Le problème, c'est qu'on ne montre pas ni les vrais acteurs de la révolution syrienne, ni ceux qui continuent maintenant dans l'impossibilité de la révolution, qui continuent dans l'impossibilité de faire quelque chose, on ne les montre pas. Par contre, on met tout l'accent sur le problème djihadiste et tout ça, on le gonfle plus que ce qui est réellement.
Alors pour des gens qui veulent vraiment s'informer sur la Syrie, comment on fait? Moi, j'ai envie de savoir finalement sur ce qu'on dit.
Il y a des endroits où on peut, par exemple Mediapart, ils en parlent de façon très claire sur la Syrie, de façon. Il y a des par exemple le blog de Hanoï sur la Syrie qui par François Burga, je pense qu'il écrit dessus. Jean-Pierre Fulu, il écrit aussi dans Rue 21. Donc il y a, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe en Syrie, on peut savoir. Ça existe sur le net, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas la peine d'aller chercher dans les archives au fond d'un musée pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est donné à tout le monde. Mais il ne suffit pas de regarder le journal de 20h pour savoir ce qui se passe en Syrie. C'est sûr, il faut aller un peu plus loin. C'est pas très très loin, mais juste un petit peu plus loin.
On mettra ces liens sur la page de l'émission. La conférence de Genève 2 qui a eu lieu le mois dernier a eu au moins le mérite de réunir symboliquement autour de la table, bien que dans des pièces séparées, le gouvernement syrien et les représentants de l'opposition. Nous sommes allés demander à Christophe Ayad, journaliste au Monde, qui était à Visage de Syrie au MUCEM, son avis sur l'issue de cette conférence de Genève 2 et sur les suites et le dénouement potentiel du conflit.
On voit dans Le Monde un article hier, Genève 2 est mort, vive Genève 3. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire, qu'on peut commencer à réfléchir à, je ne sais pas, un tribunal pénal international, un comité vérité réconciliation?
Il y a des gens qui réfléchissent à comment traîner en justice ceux qui commettent des crimes de part et d'autre, dans les deux camps, des crimes contre l'humanité. Mais je pense que ça ne pourra intervenir que lorsque il y aura une forme de solution politique qui fera que l'on pourra appréhender ces gens-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous me demandez si Genève 2 sert à quelque chose. Ça a servi à mettre face à face le régime et l'opposition, et on s'est aperçu qu'il n'en est rien sorti. Alors, il ne faut pas croire que ce sont des processus courts, que tout va se régler, que le problème syrien va se régler en 4 jours dans une conférence. C'est un processus qui est lancé, il va se poursuivre, reprendre, et on verra ce qu'il en sortira. Je pense qu'il me paraît prématuré parce que lassitude, la fatigue de la guerre n'a pas encore gagné tous les protagonistes. Il y a des protagonistes, que ce soit dans l'opposition ou au sein du gouvernement, qui pensent pouvoir encore remporter ce conflit militairement. Tant qu'ils sont convaincus de cela, la voie de la négociation ne sera pas leur voie privilégiée.
Christophe Ayad évoquait l'absence de lassitude encore des parties au conflit, pourtant au centre même de Damas, alors que le régime a autorisé à quelques kilomètres près l'inspection des sites où était entreposé le gaz sarin. Yarmouk est sous le coup d'un siège depuis presque un an. Yarmouk, c'est le camp de Palestiniens. Pour nous en parler, nous sommes justement avec Bassela, qui est partie juste avant le début du blocus. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Bassela.
Je vais parler en arabe parce que je n'ai pas encore bien appris le français. J'habitais au camp Yarmouk qui se trouve au sud de Damas. Pour le moment, il se trouve à peu près 50 000 habitants entre Syriens et Palestiniens. Il y avait un siège partiel depuis 13 mois où les gens pouvaient un petit peu sortir et acheter les choses que indiquées par le régime. Ils ne pouvaient pas acheter ce qu'ils veulent. Et depuis 200 jours, il y a un siège complet où on ne peut pas du tout ni sortir ni rentrer. Donc il n'y a pas de médicaments, pas d'école. Donc ils ont fait, les jeunes là-bas, ils ont organisé une sorte d'école alternative. Et il y a beaucoup de blessés parce que souvent il y a des bombardements. Donc ils essaient de les soigner avec ce qui peut trouver. Jusqu'à maintenant, on compte 80 morts à cause de la famine. Il y a 355 personnes prisonniers de régime. Et il y a 135 personnes mortes sous torture. Dont Hassan Hassan, un cinéaste qui faisait des films sur ce qui se passe à Yarmouk. Il y a d'autres formes de résistance, par exemple, ils ont fait un groupe de musique. Dernièrement, ils ont essayé de faire entrer des paniers pour les gens, donc, mais c'était très peu par rapport aux besoins. Donc, il y avait. Et ces paniers, donc, ils ont rentré 10, une quinzaine, après une vingtaine, mais c'est rien du tout. Et la solution, elle ne peut pas continuer avec les paniers, il faut juste lever le siège.
Merci, Bassila. Merci beaucoup d'avoir témoigné de la situation à Yarmouk, Lauriane.
Pour entendre plus de témoignages, on vous invite à venir justement ce soir, jeudi 6 février, à Manifesten, au 59 rue Thiers, dès 19h, justement, une soirée de soutien aux Palestiniens du camp de Yarmouk.
Et les interviews seront en intégralité sur la page de l'émission, sur le site de Radio Grenouille. Pour terminer, malgré les extrémismes, la brutalité, la montée de la violence, des voix pacifistes résonnent encore. On pensait à Wasmart, hein, la radio qui est en Turquie à la frontière de la Syrie et qui diffuse, ou encore Radio Souriali, ici, à Marseille.
Dont tu es le fondateur, Iyad.
Iyad, hein, on a et la
on
chance de l'avoir.
On est partenaire avec Wasmart, en plus.
En plus, il y a des liens partout, c'est ça qui est beau. Alors, même si certaines voix ont été littéralement brisées, hein, pour terminer, nous voulions rendre hommage à Ibrahim Kachouch, musicien et chanteur syrien dont les cordes vocales ont été... coupé lors de son arrestation par le régime Assad, odieux moyen pour imposer le silence de ceux qui chantent la révolution et la vie, insuffisant pour faire taire les mots d'Ibrahim Kachouch, repris en masse par des milliers d'autres voix, celles des citoyens de la paix en Syrie. Nos cordes vocales sont capables de crier « Bachar, dégage !» Elles sont sur les ondes de la grenouille. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Iyad, merci Georges, merci Bassela.
Merci à vous.
Merci à la technique et merci à Visage de Syrie.
Au Mucem.
Au Mucem, Lauriane, on laisse la parole au peuple, à la vie qui résiste.
On écoute. Au revoir.
L'eschatologie, c'est les théories sur la fin du monde. Donc là, moi je dirais que... Bon, il ne faut pas être trop pessimiste, mais en Syrie, là, on est dans un... Voilà, il y a quelque chose qui a pris fin, une vraie mort qui est en train de... Voilà, une dislocation de la société.
La mort de la révolution.
Quelque chose d'extrêmement violent. Mais en même temps, la révolution, je pense qu'elle est toujours là, mais on est dans un... Voilà, mais il y a quelque chose qui va, de nouveau, qui va être impulsé... et on ne peut que l'espérer, voilà. Mais là, on est dans quelque chose vraiment... Enfin, plus jamais, rien ne sera comme avant. Il y a cette personne là tout à l'heure qui a posé la question, et si on revenait en arrière, est-ce que tu serais engagé comme ça dans la révolution ?
Avec des si on refait le monde.
Voilà, là, mais bon, on est vraiment dans la fin d'un monde, celle de la Syrie d'avant la révolution. Ça, c'est clair que quoi qu'il arrive, même si le régime perdure, ben, les choses seront plus jamais comme avant en Syrie.
Moi, je pense que le futur est, pour moi, il est clair, quoi. Alors après, c'est une question de temps. Je pense que ces sociétés sont en train de bouger. Elles bougent vers la démocratie, vers une plus grande place pour les citoyens, pour les citoyennes, plus d'égalité, plus de dignité. C'est évident. Je crois que c'est quelque chose d'absolument évident. Après, bien sûr, il y a le mouvement de l'histoire, il y a des résistances, etc. Mais personnellement, au fond, je suis optimiste. Je pense que les choses changent, sont en train de changer et vont nécessairement changer. Il n'y a pas de doute possible. Après, bien sûr, cette violence et cette brutalité, d'ailleurs, elle est à la mesure de la volonté. Enfin, elle essaie de contenir quelque chose de très fort et de très puissant. Ils savent très bien que ça va changer et que ça ne peut pas ne pas changer.
Ce qui est fait au patrimoine architectural, mais aussi aux gens qui l'ont construit, ce patrimoine, et qui l'ont entretenu et qui vivent autour, eh bien, on finira par avoir beaucoup plus de mal à reconstruire un pays où il fera bon vivre ensemble, où les gens se sentiront fiers et heureux d'être syriens. يا الله الحل يا بشار يا الله الحل يا بشار يا الله الحل يا بشار